Et si on parlait des riches à présent, pas ceux qui gagnent 5, 6, 7 000 euros par mois, les riches, vraiment très riches, les milliardaires qui ont construit des empires, les patrons de multinationales pardon, qui sont par exemple à Davos en ce moment, les hommes et les femmes puissantes qui se déplacent en jet privé aux quatre coins du monde et qui alimentent bien des fantasmes. Bonsoir Fabrice Almeida.
Bonsoir Julie.
Vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, vous venez de publier L'histoire mondiale des riches et en sous-titre, pourquoi ils sont le vrai pouvoir. Alors, avant de vous demander pourquoi ils sont le vrai pouvoir, je vais vous demander pourquoi écrire sur les riches. Vous avez écrit sur des tas de sujets auparavant, la propagande, les serial killers, vous êtes un esprit curieux qui aimait voyager dans l'histoire contemporaine. Là, vous avez voulu parcourir 150 ans d'histoire des riches. Pour quelle raison ?
C'est une suite. En fait, j'ai fait un livre qui était sur la vie mondaine sous le nazisme, dans lequel j'examinais en fait les rapports entre les gens d'argent et les gens de pouvoir. Et ça m'a donné envie de voir comment ça fonctionnait à d'autres époques. Et tout naturellement, je me suis rendu compte que, au fond, il y a un moment dans lequel les riches industriels, commerçants, banquiers émergent et commencent à jouer un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, qui est la révolution industrielle. Et donc, je suis parti de ce moment-là, le milieu du 19e siècle, pour aller jusqu'à nos jours en suivant leur évolution à travers les différents régimes politiques, situations économiques, catastrophes naturelles. Et voilà, j'ai essayé de structurer ça autour d'une soixantaine de grands moments dans lesquels des personnes émergent et sont perceptibles comme des riches.
Vous venez de parler de la révolution industrielle. C'est vrai que le 19e siècle est un moment charnière et on voit que les riches du début du 19e ne sont pas les riches de la fin du 19e, que la richesse, elle est au début du siècle dans les mains des propriétaires terriens, dans les mains de la noblesse, des aristocrates. À la fin du siècle, on voit émerger des noms comme Rockefeller, par exemple, pour prendre peut-être le plus célèbre d'entre eux qui a fait sa fortune sur le pétrole.
Oui, exactement. C'est-à-dire que pendant des millénaires, au fond, quand on cherchait la personne la plus riche d'un pays, c'était soit le roi, ce qui n'est pas trop compliqué, soit celui qui avait le plus grand nombre de terres, qui en général était lui-même un aristocrate. Et de temps en temps, il y avait un banquier qui levait la tête, comme en France au Moyen-Âge, Jacques Coeur, en Bourgogne, qui lève la tête, mais il est trop riche, et au bout d'un moment, le roi lui prend tous ses biens et l'exile, et l'oblige à partir. Ou sinon, les Fugger, qui étaient des financiers allemands, qui ont financé l'empire de Philippe II, mais quand Philippe II fait banqueroute, les Fugger, ils n'ont plus d'argent. Donc ça, c'était l'ancienne fortune, et la nouvelle fortune industrielle, elle réussit à se pérenniser et à devenir non seulement aussi riche que des rois ou que des présidents, mais comme au même moment il y a la démocratie qui émerge, il y a des gens qui n'ont presque pas d'argent, qui sont au pouvoir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée une nouvelle dialectique, une nouvelle histoire, et c'est des gens qui sont à l'échelle planétaire, c'est-à-dire, on parlait de Rockefeller, il a du pétrole, mais pas seulement en Amérique, il l'exporte très largement à l'étranger.
Oui, parce que c'est la mondialisation qui change aussi.
Et avec l'automobile, ça accélère tout ça, donc voilà. C'est prendre ces gens et présenter leur épopée, leur aventure singulière.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de démocratisation des riches alors, du temps ?
Démocratisation, je ne dirais pas tout à fait ça, mais quand même, là où vous avez raison, c'est que leur nombre n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y a un Rockefeller qui a 400 milliards de dollars, ce qui est une fortune plus grande que celle de nos riches aujourd'hui, mais il est seul dans son genre. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment plusieurs milliers de personnes qui possèdent plus d'un milliard de dollars. Donc on voit bien qu'il y a de plus en plus de riches, de plus en plus riches, et donc c'est ça qui était intéressant à étudier, quelles ont été les conditions qui ont rendu ça possible. Donc effectivement, Thatcher, Reagan, la mondialisation financière des années 80, et puis aussi regarder avant ça les tentatives qu'il y a eu pour essayer de juguler les riches, parce qu'il y a eu des régimes, notamment le régime communiste, qui ont essayé de supprimer tous les riches sous toutes les formes possibles et imaginables.
Alors, on pourrait mettre tous les riches dans le même sac, c'est parfois ce qu'on fait, c'est pas ce que votre livre fait. Vous voulez aussi mettre de la nuance dans ce débat, et ça tombe bien dans l'actualité. Là, on entend par exemple qu'il y a 200, si je ne m'abuse, milliardaires qui viennent de lancer un appel pour payer plus d'impôts sur la fortune et pour contribuer à un monde moins inégalitaire. Il y en a qui ne sont pas tout à fait dans la même démarche aujourd'hui. Donc, la nuance, vous voulez la mettre aussi, comprendre en fait d'où viennent ces dynasties financières. Alors, il y a des milliardaires aussi qu'on connaît comme milliardaires. Même quand il était président, on parlait de Trump comme un milliardaire. On a par contre oublié que quelqu'un comme Hitler était un milliardaire. Et c'est intéressant de voir tous ces profils.
Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, certains hommes politiques rêvent de vivre comme des gens riches. Et ce qui est très intéressant, c'est que les riches eux-mêmes rêvaient de vivre comme des princes. Donc il y a une espèce de, j'allais dire, de cercle qui se constitue. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer à la fois qui ils sont et comment ils vivent. Et Hitler vit comme un riche de son époque. À la même époque, un Ford a à peu près les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire des grandes maisons, des loisirs, des transports en avion, des automobiles blindées. Parce que Hitler a plusieurs Mercedes blindées. Et donc, tout ça, ça construit, au fond, à un certain moment, le maximum du niveau de vie qu'on peut atteindre. Et qui va, par la suite, descendre dans le reste de la société. Là, il y a démocratisation. Par exemple, les premières machines à laver, elles vont équiper les demeures de nobles anglais, de riches allemands. Et par la suite, elles vont, après les années 40 et 50, descendre dans le monde ouvrier qui va pouvoir se les acheter. Pareil pour les lave-vaisselles, pareil pour les télévisions, qui sont au départ un objet de luxe et qui vont ensuite être un objet, j'allais dire, que pratiquement 96% des foyers aujourd'hui possèdent. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est aussi montrer l'épopée et en même temps comment ça a un rôle, ça impacte directement la vie des gens les plus modestes.
Ouais. Alors vous nous parlez de toutes ces personnalités à travers 150 ans d'histoire, vous nous parlez aussi des habitudes des riches, du champagne, des jets privés, c'est intéressant
Hitler
d'ailleurs.
Hitler mangeait du caviar, voilà. J'ai une petite parenthèse.
Les transports, c'est quelque chose qui caractérise très fort les riches, qui ne voyagent pas comme tout le monde, même avant les jets privés, ouais. Il y avait les wagons de train privés.
Ouais. Exactement, vous avez entièrement raison, il y a les trains privés, certains avaient des trains entiers qui leur appartenaient. D'autres avaient des wagons qui étaient rattachés à un train en partance avec la vapeur qui tirait tout ça. Pareil pour les yachts. Ils ont des yachts qui sont très très rapides. Ils prennent des paquebots pour faire la transatlantique qui sont très rapides. C'est ce qui explique qu'il y a eu un millionnaire, multimillionnaire de son époque, le colonel Astor, qui était sur le Titanic pour la traverser parce que c'était le moyen le plus rapide pour traverser avec sa femme enceinte pour revenir de son voyage de noces en Europe et en Égypte. On voit déjà le culte du voyage. Et donc, en regardant ça, je me suis aperçu qu'au fond, aujourd'hui, un des bons moyens de définir les riches, c'est ceux qui ont accès aux jets privés. C'est-à-dire qu'il y en a à peu près 2500 qui en sont propriétaires et à peu près 7500 qui en louent pour des voyages d'affaires ou des voyages d'agrément. Et ça permet de dessiner quand même un groupe qui a généralement très fortement accès aux moyens économiques, aux moyens financiers, et évidemment qui essayent de faire des créations de richesses et d'agir sur le pouvoir.
Et là, vous parlez à l'échelle française, hein ?
Échelle mondiale.
Ah, échelle mondiale.
Échelle mondiale, c'est dire combien, c'est pas un groupe qui est si nombreux.
Très petit club.
Voilà. Les milliardaires, finalement. En gros, les milliardaires, c'est 2500 personnes. Mmh. Mais en réalité, au-delà, il y a des gens qui sont multimillionnaires qui peuvent être propriétaires d'un jet privé ou en louer.
Mmh. Vous avez peut-être vu passer cette vidéo qui circule beaucoup en ce moment, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts en France, qui dit ceci.
Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires.
Voilà, elle réagit notamment au fameux rapport d'Oxfam qui est chaque fois publié au moment du forum de Davos et qui montre que les inégalités entre riches et pauvres se creusent. Est-ce qu'on vivrait mieux sans les riches, Fabrice Zelmeda ?
Historiquement, ce n'est pas le cas. Historiquement, quand on regarde des pays où il n'y a pas de riches, ce n'est pas ceux où on vit les mieux. On peut prendre deux exemples historiques manifestes, qui est celui de l'Union soviétique et celui de la Chine communiste après 1949. Ces deux pays décident d'éradiquer complètement toute forme de richesse et de distinction par l'argent, aussi bien aristocratique. Donc on coupe la tête et on prend les biens des nobles, on prend les biens des banquiers, on prend les biens des directeurs d'usines. Et quand ils essayent de se reconstituer, même à petite échelle, c'est l'exemple des petits paysans russes qui réussissent à faire fortune en vendant sur les marchés leurs fruits et légumes, et ben on va avoir Staline qui va faire la découlakisation et qui donc va procéder à une liquidation de masse. Pareil pour les ingénieurs, pareil pour les banquiers. Donc vraiment, ces deux...